Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Voilà des élections dont on connaît d'avance le résultat et qui pourtant méritent qu'on s'y arrête. Demain, en Russie, les électeurs désigneront leurs députés pour une nouvelle législature. Aucun suspense après une campagne qui s'est déroulée dans une indifférence quasi générale. Russie unie, le parti de Vladimir Poutine l'emportera haut la main. Que cachent donc ces élections Potemkin ? Comment s'explique l'apathie de l'opinion publique en Russie alors que la récession et la baisse du niveau de vie, ou en tout cas sa stagnation, devraient nourrir la grogne ? Jusqu'où la panne des réformes économiques et sociales menace-t-elle à terme la solidité de l'édifice ? Vladimir Poutine poursuit avec succès son grand dessein impérial imposant son jeu en Syrie et à l'est de l'Ukraine. L'exaltation nationaliste est-elle aujourd'hui le seul ciment de sa grande popularité ? Au pouvoir depuis 16 ans, le maître du Kremlin prépare la suite, la prochaine élection présidentielle prévue en 2018. Face à une Europe en crise et à une Amérique en colère, où Donald Trump est son premier admirateur, Vladimir Poutine est-il le grand gagnant des incertitudes du moment ? C'est ce que nous allons voir grâce à vous, Tatiana Kastoueva-Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du centre Russie à l'IFRI. Jean Radvani, professeur des universités à l'INALCO.
Bonjour.
Bonjour. Camille Grand, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, et Julien Vercueil, vous êtes maître de conférences de sciences économiques, vous aussi à l'INALCO, où vous dirigez le département Commerce international, Russie, Hautes études internationales. Tatiana Jean, je commence avec vous pour essayer de comprendre le paysage politique dans la Russie d'aujourd'hui, à supposer qu'on puisse utiliser ce terme, avec une première question qui porte sur un paradoxe. On se souvient que lors de la campagne des précédentes législatives 2011-2012, il y avait eu des manifestations, c'était du jamais vu, et pourtant la classe moyenne avait bénéficié d'une hausse conséquente de son niveau de vie, et pourtant les gens étaient descendus dans la rue. Cette fois, baisse du niveau de vie, calme plat.
Il est vrai qu'au premier abord, ça semble être un grand paradoxe. La situation économique se dégrade et la popularité de Vladimir Poutine reste encore extrêmement élevée, même si après le pic de l'automne dernier, ça commence à s'effriter un petit peu. Aujourd'hui, la mission, il y a une double mission pour ces élections, en fait, du point de vue du gouvernement. D'une part, les présenter comme les élections transparentes et honnêtes et éviter les protestations, comme c'était le cas lors du cycle électoral en 2011-2012.
Donc, on a changé le président de la commission.
Voilà, il y a plusieurs signes qui ont été donnés. Et en fait, le revers de la deuxième mission, c'est quand même de garder la main sur le système, de le garder sous contrôle, la future composition du Parlement. Donc il y a quelques signes d'ouverture qui ont été donnés, il y a eu des primaires qui ont été organisées pour la Russie unie.
Des primaires ?
Voilà, au mois de mai, un renouvellement certain au plus haut niveau du parti a eu lieu. Il y a plus de partis qui participent. Et comme vous avez dit, le chef de la commission centrale électorale a changé. C'est une personne qui a une réputée défendre les droits de l'homme et être quelqu'un d'extrêmement honnête. Et en même temps, tout ce jeu-là, il est très verrouillé en amont dans le choix des candidats, etc.
Et où sont passés les partis d'opposition dites démocratiques ou libérales ?
Les partis d'opposition existent. Il y en a même au moins deux qui vont prendre part à ces élections-là. Il y en a 14 au total qui vont figurer sur les listes, les bulletins de vote. Et c'est le parti Parnasse et le parti Yabloko. En même temps, quand vous regardez
Yabloko,
les sondages...
Yabloko, à condition qu'il ait le pourcentage minimum, parce que...
Il participe, mais quand vous regardez les sondages... Aucun de ces partis ne peut avoir plus, n'est donné en fait à plus d'1% d'intention de vote. Alors qu'il en faut 5% pour passer à la Douma.
C'est ça. Mais le principal opposant, donc cet avocat Navalny, qui est, je crois, toujours assigné à résidence, lui ne peut pas se présenter.
Exactement. Son parti, le Parti du Progrès, n'a pas pu obtenir l'enregistrement auprès du ministère de la Justice, donc il ne peut pas participer aux élections. Je pense que Navalny a effrayé les autorités russes avec le score qu'il a pu faire au mois de septembre 2013, quand il s'est présenté à la mairie de Moscou, et sans avoir l'accès à la télé, sans avoir bénéficié de ressources administratives comme son concurrent principal, le maire finalement gagnant Subanine, il a pu obtenir quasiment 27%.
Donc on voit que l'opposition est maîtrisée. En plus, je crois qu'ils se disputent beaucoup entre eux, en plus.
Tout à fait. Elle est maîtrisée, mais en même temps, il faut dire que la popularité de ces partis-là, la chute de cette popularité ne date pas ni de l'annexion de la Crimée, ni même d'avant. C'est depuis 2003 que Yabloko n'arrive plus à passer le taux, le seuil minimum pour entrer à la Douma. Et il n'y est plus représenté.
Alors en même temps, on a vu que le régime a quand même durci. Un certain nombre de mesures vis-à-vis des ONG, d'abord, comme Mémorial, mais aussi l'Institut de sondage, par exemple, le seul que l'on... l'Evada, le seul que l'on créditait d'une véritable crédibilité, a été qualifié d'agent de l'étranger. Donc la raison pour laquelle cet institut serait maintenant privé de...
Bien sûr, il y a ce double jeu, en fait, depuis le cycle électoral précédent. D'une part, quelques signes d'ouverture et en même temps, plusieurs mesures de verrouillage, comme la loi dont vous parlez, la loi qui qualifie d'agents étrangers les institutions qui ont des financements étrangers. On peut aussi citer d'autres mesures. Ça peut être des répressions très ciblées, très bien choisies. Ça peut être aussi, c'est assez symptomatique, la création de la garde nationale qui a des pouvoirs quand même suffisamment élargis. Et on peut supposer que c'était en vue d'éventuelles protestations, que le pouvoir cherche à se prémunir d'outils pareils.
Mais donc, les élections de demain, vues du Kremlin, quelle est leur utilité ? Quel est leur objectif ?
De donner une nouvelle légitimité à la Douma. Je pense d'ouvrir un nouveau cycle électoral, parce que très clairement, ces élections-là préparent les futures élections présidentielles, qui éventuellement, il y a une chance pour que ce soit aussi anticipé, comme d'ailleurs ces élections-là. La date a été avancée de 3 mois. Donc pour moi, voilà, légitimer et ouvrir un nouveau cycle électoral. Et on ne sait pas encore quelle sera la tendance principale de ce cycle électoral. Est-ce que ce sera un durcissement ultérieur ? Est-ce qu'il y aura quand même l'intention de lancer enfin les réformes structurelles pour changer la situation ? On verra ça.
On verra ça. Julien Vercueil, en attendant, voyons avec vous quelle est la situation économique de la Russie. Parce qu'on a du mal à comprendre. On voit le cours du pétrole qui reste extrêmement bas, alors que les statistiques nationales russes avaient calculé un budget avec un prix à peu près qui était à peu près le double. On voit le cours des matières premières qui a lui aussi baissé. La récession s'est installée, les réserves fondent, même s'il y a beaucoup d'or dans les coffres russes. Quel est l'état des lieux aujourd'hui ?
Alors, l'état des lieux est effectivement relativement complexe à décrire, hein, puisque il se compose à la fois d'une situation structurelle de ralentissement économique qui ne date pas de 2014, qui date de 2012 exactement, et qui vient d'un déficit d'investissement qui s'est prolongé depuis une bonne décennie, une quinzaine d'années.
Et puis c'était l'effet retard aussi de la crise mondiale.
Non, l'effet retard de la crise mondiale, il n'y en a pas eu au sens où il y a eu un effet immédiat en 2009, qui a été extrêmement puissant, qui a entraîné une chute du PIB de 8% pour l'année 2009, et puis ensuite un rebond extrêmement rapide de l'économie. Donc c'est au contraire après que le ralentissement structurel s'est fait sentir véritablement. Et sur cette base-là, on a eu des chocs successifs qui se sont abattus sur l'économie de la Russie. Et ça, c'est à partir de mars 2014, c'est-à-dire à partir de l'annexion de la Crimée. Le premier de ces chocs, c'est un choc d'incertitude, c'est-à-dire le fait que on se trouve dans une situation géopolitique tout à fait nouvelle à l'est de l'Europe, avec une donne géopolitique tout à fait incertaine, et ça fait fuir les capitaux. Donc on a un premier choc d'incertitude, et 2014-2015, ce sont des années où les fuites de capitaux se sont brutalement envolées en Russie. Et puis puis ensuite, on a d'autres chocs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais le choc le plus important, c'est évidemment la chute des prix du pétrole à la mi-2015. Parce que là, ça veut dire non seulement moins de revenus pour les exportateurs russes, moins de bénéfices pour les principales entreprises qui assurent la croissance économique industrielle de la Russie, qui sont les entreprises exportatrices de matières premières, et puis moins de recettes budgétaires aussi pour le budget de l'État. Donc l'État est dans une situation économique plus difficile.
Et alors où en est la classe moyenne qui avait donc énormément bénéficié des années Poutine quand il était d'ailleurs Premier ministre, lui ?
Alors, la classe moyenne est touchée par une chute des revenus, qui est la conséquence de la combinaison de ces différents facteurs. Cette chute des revenus de 2014 à 2016 atteint, en termes réels, c'est-à-dire si l'on raisonne en pouvoir d'achat, plus de 10%. Encore pour l'année 2016, on estime que les revenus réels vont chuter de 5%, et ça avait été de 9% en 2015. Donc on voit que le pouvoir d'achat de la population russe est durement touché. Il est touché par la stagnation des salaires et des revenus et par l'augmentation de l'inflation qui a atteint 15% en 2015 et qui atteindra dans les 6% en 2016. Donc on a des revenus réels qui chutent véritablement. Il ne s'agit pas de stagnation du pouvoir d'achat, il s'agit de chute du pouvoir d'achat.
En même temps, quand on lit les reportages publiés dans la presse française ces derniers jours, on voit qu'il y a cette espèce de fatalisme où les gens disent « bon, c'était peut-être mieux avant, mais il y a quelques années, mais au fond, voilà, c'est comme ça ». Il y a eu néanmoins des mouvements de grogne dans certaines régions agricoles notamment.
Oui, il faut distinguer effectivement les différentes régions qui ne sont pas touchées de la même manière, entre les villes et les campagnes, entre l'Ouest et l'Est, entre les régions qui continuent de bénéficier de production exportatrice et les autres. Donc là, le tableau est évidemment très diversifié pour un pays aussi grand que la Russie. En revanche, ce qu'on peut peut-être dire pour remettre en perspective, c'est que la situation reste quand même infiniment plus favorable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une quinzaine d'années dans les années 90. Et donc c'est peut-être aussi en référence à la dureté des temps des années 90 que la population fait preuve de résistance et de résilience. Voilà. L'autre point, c'est que on a des moyens localement de subvenir à ses besoins. Il ne s'agit pas d'une crise d'une gravité telle que la capacité, par exemple, à vivre au quotidien serait remise en cause. Le chômage n'a pas augmenté de manière très importante. Ce qui a changé, c'est la possibilité de partir à l'étranger, le coût de certains produits. Voilà. Et donc, on est touché dans les perspectives d'épargne. C'est ça qui est touché. Mais on n'est pas touché, pour l'instant en tout cas, de manière massive, dans la capacité de subvenir à ses besoins quotidiens.
Camille Grand, quand on s'intéresse maintenant à la politique de Vladimir Poutine à l'échelle internationale, on voit que les dépenses militaires sont maintenues, même si, encore une fois, il y a une forte pression sur le trésor public et le budget du pays. Et on voit finalement qu'avec une situation intérieure confortée par son extraordinaire taux de popularité, je crois que aux alentours de 80%, il joue son jeu avec une grande maestria.
Oui, effectivement, Vladimir Poutine, dans une situation où il a beaucoup augmenté le budget militaire depuis qu'il est président. On a quasiment triplé ce budget militaire, mais après, il faut relativiser ce chiffre pour dire que ça n'est pas non plus l'Union soviétique. Le budget militaire de la Russie aujourd'hui, c'est la combinaison du budget de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Ce qui est beaucoup plus.
Mais avec un taux d'accroissement spectaculaire.
Avec un taux d'accroissement spectaculaire, puisqu'il a à peu près triplé au cours des 15 dernières années. Ça a donné à la Russie des capacités militaires qu'elle n'avait plus à la fin des années 90 ou au début des années 2000.
Et qu'elle a démontré sur le terrain.
Et qu'elle a pu démontrer sur le terrain à travers la manœuvre en Crimée qui a été extrêmement rapide et efficace, à la différence des expériences précédentes de guerre dans l'étranger proche, que ce soit la Géorgie ou de guerre intérieure comme en Tchétchénie qui avait été plutôt des catastrophes pour l'armée russe. Et surtout avec une démonstration de force en Syrie, où pour la première fois depuis l'Afghanistan, en réalité, la Russie est sortie de son espace, de l'espace soviétique, pour une opération militaire d'une ampleur qui n'a rien à voir avec les guerres américaines d'Irak ou d'Afghanistan, mais malgré tout, avec un rythme de bombardement important, facilité évidemment par le déploiement sur des bases en Syrie, des opérations à long rayon d'action, puisqu'un certain nombre de bombardements ont été menés depuis le territoire russe, depuis l'Ingouchie en réalité, donc avec une démonstration de force assez rare, c'est-à-dire il y a quelques pays dans le monde qui sont capables de mener ce type de bombardement à long rayon d'action, et le déploiement de toute une série de systèmes d'armes modernes qui montrent que finalement cet accroissement du budget militaire a permis à la Russie d'acquérir un niveau militaire qui n'est tout à fait différent de celui de la période de l'après-guerre froide, avec une modernisation et la démonstration de capacité, par exemple, par des tirs de missiles de croisière à longue portée, depuis la Caspienne, etc., dont l'objet, d'ailleurs, était essentiellement de démontrer aux Occidentaux et aux clients de l'armement russe qu'ils avaient franchi une nouvelle étape, la plupart de ces systèmes ayant en réalité une utilité marginale dans la zone syrienne.
Et alors, sur le plan diplomatique, là, il y a une... Vladimir Poutine danse une mazurka, même si c'est pas une danse russe, avec beaucoup d'aplomb.
Alors, il a effectivement réussi à se remettre en selle diplomatiquement. C'était son grand objectif, hein, et dans le contexte syrien en particulier, on voit que la Russie, depuis l'intervention de septembre 2015, l'intervention militaire de septembre 2015, s'est remise non seulement à la table des négociations, mais au centre du jeu. Avec une manœuvre en deux temps. D'abord, le sauvetage de Bachar el-Assad, qui était en difficulté à ce moment-là, et donc le sauvetage du
sauvetage maintenu, au-delà de l'énième nouvel accord avec Washington, tout cas avec John Kerry, parce qu'on voit que le Pentagone est quand même très très réticent.
Et donc une manœuvre qui aujourd'hui fait que le départ de Bachar el-Assad paraît improbable à court terme. Et dans le même temps, là aussi pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, une Russie qui devient et qui se pose en partenaire à part égale des États-Unis dans la gestion de la crise, d'une crise majeure du Proche-Orient.
Ce qui est l'objectif affiché par Vladimir Poutine depuis qu'il a pris le pouvoir il y a 16 ans. Il est au pouvoir de façon continue depuis 16 ans.
Oui, oui, avec un moment
sous un
de...
titre...
Voilà, parfois Premier ministre,
a changé.
Ça n'a pas changé grand-chose.
Mais c'est bien ça, l'idée, c'est de remettre en cause l'ordre mondial... dont il estime qu'il a été imposé par les Américains au moment de la chute du mur, et il est en train de réussir d'une certaine manière.
Alors, avec certaines limites, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit qu'en Europe, l'objectif est celui d'affirmer, de confirmer des sphères d'influence, avec un contrôle par la Russie de l'espace ex-soviétique, de cet étranger proche qui finalement se voit reconnaître une souveraineté limitée, pour employer les mots de la doctrine Brejnev, et donc pas vraiment le choix de choisir ses alliances, ses dirigeants, sans faire l'objet de pressions importantes. C'est le cœur de la crise ukrainienne, me semble-t-il. À côté de ça, un retour au Moyen-Orient, avec un réseau, non seulement la Syrie, mais aussi de bonnes relations avec l'Irak, avec l'Égypte et évidemment
avec
l'Iran, qui est le grand partenaire, au moins tactique, hein, puisque c'est une alliance qui n'est pas aussi profonde qu'on pourrait l'imaginer. On l'a vu au moment.
En tout cas, elle fonctionne depuis les 5 ans de la guerre en Syrie.
Ils sont presque sur la même ligne sur le dossier syrien. Il y a sans doute des nuances ici ou là, mais ils sont presque sur la même ligne sur le dossier syrien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les Iraniens restent très sourcilleux sur leur indépendance. Et quand les Russes avaient annoncé comme une grande preuve de leur nouvelle influence le déploiement d'avions russes depuis le territoire iranien, ces avions n'ont fait qu'un passage furtif en Iran, parce que les Iraniens se sont agacés de ces annonces un peu spectaculaires.
Jean Radvani, on peut comprendre évidemment que pour une population russe ou des élites russes qui ont subi comme une humiliation l'effondrement de l'Union soviétique, au fond, cette restauration de l'orgueil russe est un extraordinaire tremplin pour Vladimir Poutine et conforte, encore une fois, ce taux de popularité exceptionnel.
Tout à fait. Je pense qu'il faut toujours considérer que toutes les décisions, tous les actes majeurs de Vladimir Poutine au plan international sont toujours liés à un souci vis-à-vis de son opinion publique. Et je pense que on peut dire à la fois que il faut prendre en considération le fait que la population russe a été touchée en 30 ans, 25 ans par toute une série de crises mais majeures qui ont vraiment, je crois qu'il faut parler d'un traumatisme. C'est une population globalement traumatisée. Bien sûr, tout le monde ne l'est pas à la même enseigne. Il y a des gens qui en ont profité, il y a des gens qui ont souffert, qui en sont morts, ou qui sont le taux de suicide a augmenté. Enfin, voilà.
Mais c'est ce que Svetlana Alexievitch, qui a reçu le prix Nobel de littérature, a admirablement décrit dans La fin de l'homme rouge, par exemple.
On a une population traumatisée physiquement, c'est-à-dire concrètement dans la vie quotidienne. Je suis d'accord avec Julien Vercueil qui dit qu'il y a eu une amélioration, mais les 10-15 premières années ont été traumatisées. Au sens perte de pouvoir d'achat, les gens réduits à vendre le peu qu'ils avaient sur les trottoirs, les vieillards, les retraités, etc. Donc une situation très très dure. Et évidemment, il ressort de ça qu'après cette série de crises, cette population aspire d'abord à la stabilité et à une certaine sécurité. Et c'est un des objectifs et une des réussites de Vladimir Poutine. Il a pu montrer qu'il réussissait à redonner une certaine stabilité, une certaine sécurité, et même, pendant 10 ans en tout cas, une vraie croissance. Et donc ça, c'est un aspect fondamental. Et l'autre aspect, il est psychologique. C'est-à-dire le fait que les Russes, à cause de l'éclatement de l'URSS, des défaites en Tchétchénie, la guerre qui s'est mal déroulée en Géorgie, l'avancée de l'OTAN vers l'Est, l'élargissement de l'Union européenne. Tout ça a été vécu comme un problème psychologique. Voilà, les Russes atteints...
Une humiliation.
Les Russes atteints dans une certaine fierté nationale qui est peut-être mal placée, mais qui est celle-là. Et là-dessus, et Vladimir Poutine, effectivement, dès son entrée en fonction comme Premier ministre d'Eltsine, c'est-à-dire fin 99, il déclare son but, c'est de redonner confiance à cette Russie. Mmh. Et il se fixe comme objectif de rétablir à la fois une certaine stabilité économique et une croissance économique, et en même temps redonner à la Russie son rôle de puissance régionale, voire mondiale. Et là-dessus, il réussit.
Alors, est-ce que ça explique le fait, au-delà de... C'est quand même un régime autoritaire, donc on parle d'opinion publique, mais il ne faut pas entendre ce terme comme on peut le faire dans une société démocratique. On voit à quel point les médias sont muselés, à quel point Pavel Durov, qui avait créé Contacti, donc le...
Et Telegram.
Et Telegram, donc le Facebook russe est quelque part entre Londres et Dieu sait où, la Floride. Est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine est intouchable au point que l'avalanche de scandales, il y a eu non seulement les scandales de corruption touchant quelques oligarques proches de lui et sa propre administration, les Panama Papers où son copain violoncelliste tout à coup avait une fortune qui aurait été justifiée uniquement par l'achat de ses instruments de musique, le dopage dans le sport, quand même une humiliation majeure, tout cela ne l'atteint pas dans l'œil des Russes ?
C'est plus compliqué, je pense. Alors, à la fois, effectivement, l'opinion publique ne fonctionne pas comme chez nous, et en même temps, elle existe. Et le fait qu'il s'attaque à Levada, au centre Levada, en le qualifiant d'agent de l'étranger, je note que certains journaux, du coup, c'est assez intéressant. Ils publient des sondages de Levada en mettant en dessous...
agent de l'étranger ?
Oui, le ministère a déclaré que c'était un agent de l'étranger. Ce qui est une façon de jouer à contre-jeu sur ce que a fait le ministère.
Oui, parce que ça permet de les publier.
Ça permet de les publier,
oui.
et en disant, quand même, regardez ce que le ministère a fait. Et donc, cette opinion, elle existe, et je pense que Vladimir Poutine est très soucieux de son image et de la façon dont cette opinion réagit. Et je crois que, pour revenir sur les élections, puisque c'est de ça dont il s'agit demain, moi je suis d'accord avec l'analyse qui a été faite tout à l'heure, il faut ajouter une chose, c'est que ils ont modifié la loi électorale, ce qui fait que la moitié des députés, 225, vont être élus dans des circonscriptions au scrutin uninominal. C'est-à-dire, en dehors, il y a 225 qui sont élus sur les listes des partis, pour lesquels il faut 5%, et pratiquement tout le monde s'attend à ce que ce soit les quatre mêmes partis qui passent la barre des 5%. Probablement, les autres n'y arriveront pas du fait de leur division. Mais il y a 225 élus qui vont être à ce scrutin uninominal. Et là, il peut y avoir des surprises.
Mais ils ont été choisis, ceux-là, quand même, soigneusement.
Non. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a quand même 2100 candidats sur ces 225 circonscriptions. Donc, il y en a une partie qui ont été choisies, il y en a une partie qu'on a empêchée d'être candidat pour toutes sortes de raisons, même si Mme Panfilova, la nouvelle responsable du comité...
Qui vient de l'univers des ONG.
Qui vient de l'univers des ONG. Elle a essayé de faire en sorte que quelques-uns soient repêchés. Donc, on peut avoir un certain nombre de candidats de ces partis de l'opposition qui ne passent pas sur les listes des partis, mais qui soient élus dans ce deuxième mode de scrutin. Probablement pas beaucoup, mais quelques-uns peuvent être significatifs. Parce que c'est quand même comme ça qu'il y avait deux ou trois élus de l'ancienne Douma qui ont vraiment joué un rôle public en dénonçant un certain nombre de choses, même s'ils étaient limités, ils étaient marginalisés, mais ils existaient, ils avaient
une
parole.
Est-ce que c'est en fait cette nouvelle génération qui va accompagner Vladimir Poutine dans son prochain mandat présidentiel? Autrement dit, est-ce que cette forme d'onction par les urnes va servir
sans
à
doute,
distinguer...
Mais de deux façons, parce que Vladimir Poutine, le parti uni, a vraiment...
Russie unie,
rajeunit ses cadres, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de rajeunir le corps des députés. Et alors, pour ce qui concerne ceux de l'opposition, je ne sais pas qui sera élu parmi ceux-là, probablement pas beaucoup, c'est mélangé là aussi. Il y a des vieux chevaux de retour, je dirais. C'est-à-dire les éternels... Alors bon, il y en a un qui a été assassiné, c'est Boris Nemtsov. Mais Kassianov, Yavlinsky, c'est des gens qui sont là depuis les années 90, depuis Gorbatchev. Et la population, en fait, n'est pas attirée par ces gens-là, parce que ils ont un discours qui ne passe pas. Et il y a des jeunes. Donc voilà, c'est quand même une des petites choses qu'on attend du scrutin de demain.
Éric Scholl, vous dirigez Courrier International, notre partenaire. On voit dans la presse occidentale, mais aussi... je crois dans la presse russe que vous avez parcourue, à quel point cette campagne électorale a été extraordinairement ennuyeuse au point d'ailleurs qu'on se dit que le régime joue aussi sur cette forme d'indifférence. Mais il y a un parti qui s'est distingué avec une imagination débordante, et c'est le Parti communiste.
Eh oui, effectivement, si de manière générale, les politiques ont décidé de ne pas trop se fouler, c'est ce que dit le journal russe Nezavissimaya Gazeta. Le Parti communiste, lui, a joué à fond la carte de la communication, avec un objectif pour cette formation qui est actuellement le deuxième parti de Russie et qui dispose de 92 députés dans cette Douma sortante, celui de séduire les jeunes électeurs. Alors pour y parvenir, eh bien le PC russe, ou plutôt le Parti communiste de la Fédération de Russie, c'est son nom, n'hésite pas à jouer avec les symboles. Il a diffusé une affiche montrant Vladimir Lénine, que l'on voit jeune et athlétique,
comme on ne l'a jamais vu,
en jean et t-shirt rouge. Un t-shirt orné, bien sûr, de la faucille et du marteau. Et sous son bras gauche, eh bien, un ordinateur portable, lui aussi, rouge. À ses côtés, une jeune femme en t-shirt rouge, lunettes rouges relevées sur le front. Et à la main, eh bien, un smartphone, rouge toujours, avec sous cette illustration d'un couple, donc plutôt glamour, un slogan, un parti comme celui-ci existe. Et c'est pas tout. Depuis le lancement de la campagne, nous apprend Nezavissimaya Gazeta, une affiche provocante a fait son apparition sur les réseaux sociaux, avec, je cite toujours le journal, une blonde sexy en robe rouge accompagnée du slogan PCFR, la force est excitante.
Mais on a vu aussi, je crois, une affiche de Staline qui vapote.
Alors, on voit Staline vapoter, on voit voilà, aussi Karl Marx portant le Capital en blouson de cuir noir. Bon, toute cette campagne a intéressé le journal anglophone, le Moscow Times, et qui s'est intéressé justement à cette opération de com', hein, de la part du Parti communiste, un parti, rappelons-le, toujours dirigé par Gennady Zyuganov, un stalinien de 72 ans, qui, loin de l'image du Lénine geek montré sur les affiches, fait plutôt figure, lui, de fossile de l'Union soviétique.
Oui, alors, et pardon, je vous interromps, parce qu'on l'a entendu ce matin sur France Inter, Monsieur Zyuganov, et il s'est livré à une critique en règle de Vladimir Poutine, mais avec des arguments évidemment qu'on n'avait plus entendus depuis les années 80.
Parce qu'effectivement, c'est pratiquement le premier parti d'opposition. Selon le Moscow Times, ce ripollinage du PC russe ne fait pas partout des émules. Le quotidien cite par exemple les camarades de la ville de Perm, donc à l'est de Moscou, au pied de l'Oural, qui, voyant d'un mauvais œil cette mode cool d'images qui se veulent dans le temps, ont opté pour un thème plus conservateur. Le rouge, c'est mieux que le bleu, peut-on lire sur leurs affiches. Une vraie claque adressée en fait à la communauté locale homosexuelle, explique le Moscow Times, communauté qui avait fait du bleu sa couleur de ralliement.
Alors il y a évidemment une autre élection capitale qui intéresse au premier chef le Kremlin, c'est l'élection présidentielle américaine.
Ah, de très près, effectivement, c'est ce que constate Edward Luce du Financial Times, qui s'est penché sur ce goût prononcé du Kremlin pour la course à la Maison-Blanche, et selon lui, cette intrusion russe, qui constitue quand même une première, hein, cette intrusion russe est très simple. Je le cite, la seule chose que Vladimir Poutine doit faire pour créer de l'embarras aux États-Unis, c'est de semer le doute sur l'intégrité du processus électoral. Or, un grand nombre d'Américains est déjà persuadé que le résultat du vote de novembre sera l'objet de manipulation. Et le premier, évidemment, à dénoncer ces manipulations, étant Donald Trump, eh bien, il existe une sorte d'alliance tacite entre le candidat républicain et le Kremlin, c'est ce que raconte Edward Luce. Attention, précise le journaliste, la victoire de Donald Trump ne correspond pas forcément aux intérêts de Vladimir Poutine, mais la possibilité d'entacher au niveau mondial la crédibilité du système américain, ça, oui, ça servirait les intérêts de Vladimir Poutine.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Camille Grand, cette implication du Kremlin dans la campagne présidentielle américaine, on l'a vu au fil des dernières semaines, il y a eu les attaques contre les attaques électroniques contre les fichiers du Parti démocrate. Il y a eu Julian Assange qui a fait d'Hillary Clinton son ennemi personnel et dont on dit, il y a une longue enquête là-dessus dans le New York Times, qui travaille quand même de façon assez rapprochée avec le FSB russe. Jusqu'où le Kremlin peut-il, de façon assez voyante finalement, s'ingérer dans cette élection américaine sans subir les foudres de Washington? On voit d'ailleurs que la Maison-Blanche hésite beaucoup sur la riposte.
Alors, on est dans une situation un peu paradoxale, parce que d'une certaine manière, les mouvements russes qui sont maintenant relativement confirmés, hein, de jeux par le biais des réseaux sociaux ou par le biais de cyberattaques pour essayer de bousculer un peu cette campagne, ne sont en réalité pas nécessaires compte tenu de la personnalité de Trump, qui a quand même affirmé qu'il préférait Vladimir Poutine à Barack Obama.
Parce que Vladimir Poutine l'aurait traité de génie.
Voilà. Donc
ce qui n'est pas exact.
Mais on voit que Vladimir Poutine s'est joué de l'ego de Donald Trump, oui. Et que Donald Trump est persuadé son côté je fais des deals marchera bien avec Vladimir Poutine, qui voit évidemment en lui un partenaire plus utile qu'une Hillary Clinton, qui est détestée et qui en plus a porté le reset de cette relance de la relation russo-américaine au début du mandat de Barack Obama, et qui a été profondément déçue par le résultat de cette politique.
Et puis ce n'est jamais qu'une femme, comme voilà. Vladimir Poutine l'a dit à des journalistes français, si
et d'ailleurs,
quand elle était secrétaire d'État.
L'entourage d'Hillary Clinton souligne que cette misogynie de Vladimir Poutine fait partie de cette animosité personnelle chez elle, puisqu'elle elle le ressent, elle a ressenti de manière extraordinairement claire au moment où elle était secrétaire d'État. Donc on a un jeu assez compliqué et qui d'ailleurs explique le fait qu'une partie de l'establishment de politique étrangère républicain ait tourné le dos à Donald Trump autour de cette relation avec la Russie où Trump annonce une relance. Poutine ne cache pas, ce qui est assez rare, une préférence très marquée pour Trump.
Alors il y a eu aussi les soupçons, évidemment, d'investissement non déclaré de la part de Donald Trump dans des affaires d'oligarques russes, et puis son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, qui lui était impliqué jusqu'aux sourcils dans les affaires ukrainiennes, puisqu'il oui. était le conseiller de Yanukovych, le président ukrainien qui a été chassé par la révolution de Maïdan.
Alors, l'entourage de Donald Trump est effectivement marqué par des gens qui ne cachent pas leur sympathie ou leurs intérêts avec la Russie, qui peuvent avoir été eux-mêmes impliqués dans des affaires plus ou moins louche avec les oligarques du système russe. Et s'ajoute à ça le fait que des personnalités comme le général Flynn, par exemple, qui est l'ancien patron du renseignement militaire américain, s'est retrouvé invité d'honneur des soirées de Arty, etc. Donc, cette scène de télévision qui est le porte-parole officieux du système russe. Donc, on voit bien tout un dispositif où l'entourage de Trump est infiltré et où Trump lui-même a des relations, on va dire, de business, hein, puisque assez ambiguës avec le système russe où il a fait des affaires plus ou moins abouties pendant la décennie passée.
Jean Radvani.
Oui, je crois qu'on peut peut-être ajouter deux choses vis-à-vis de cette relation singulière Russie-États-Unis. D'une part, il y a récemment des discussions entre les experts, entre les gens des think tanks américains, entre d'anciens conseillers officiels, etc., sur qu'est-ce qu'il faut faire avec la Russie, et d'une certaine façon quand même une critique implicite de la politique menée depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu raison d'être aussi ferme, de pousser la Russie dans ses retranchements ? Est-ce qu'il serait pas raisonnable maintenant d'avoir une politique différente ? On a négligé trop la Russie, il faut revenir là-dessus.
C'est ce qu'on entend beaucoup
voilà.
en France.
Aussi en France, bien sûr. C'est pas seulement aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a vraiment une organisation de ce débat. Et l'autre aspect qui est différent, très différent, c'est qu'il y a eu des rapprochements assez significatifs entre, au fond, la mouvance poutinienne officielle et une partie de la droite conservatrice américaine, y compris le Tea Party, etc., sur la croisade morale qu'a lancée Vladimir Poutine il y a 2-3 ans. C'est-à-dire l'idée que l'Occident perd ses valeurs
en s'appuyant.
Alors, Vladimir Poutine s'appuie sur l'Église orthodoxe et il s'est rapproché. Enfin, Marlène Laruelle, ma co-auteur, signalait qu'on a failli avoir un des congrès d'une des plus importantes groupes conservateurs américains à Moscou, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu l'annexion de la Crimée. Donc il y a ce rapprochement qui est aussi sur le terrain des valeurs.
Sur le terrain des valeurs, mais sur le terrain économique, Camille Grand, les relations avec l'Union européenne restent extrêmement tendues.
Alors, de fait, les sanctions sont toujours en place.
Elles ont été renouvelées.
Elles ont été renouvelées maintenant
juin.
À 3 reprises. Hein, donc tous les 6 mois depuis 2014, il y a des décisions de reprise.
Or ça, c'est décidé à l'unanimité au sein de l'Union. Donc ça veut dire que malgré les déchirements, etc., le consensus européen sur les sanctions à maintenir à cause de l'Ukraine demeure.
Alors il demeure. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a une campagne des proches de la Russie elle-même, pour dire il est temps de lever ces sanctions ne servent à rien, elles nous font du mal à tous, etc. Elles font plus de mal à l'Union européenne qu'à la Russie, et ainsi de suite. Et à chaque fois, elles sont renouvelées. Sans doute parce que le consensus européen, qui est un peu un consensus par défaut, parce qu'il y a des voix dans l'Union européenne, comme Orban, comme Tsipras, comme Renzi, qui seraient plutôt pour une levée des sanctions, mais il y a aussi des voix qui sont clairement pour un durcissement de ces sanctions en Europe centrale, dans les pays baltes, en Pologne, en Suède, etc. Donc, on finit le consensus se fait autour de ce qui est en réalité la position française, allemande, qui est un maintien de sanctions qui ne sont pas des sanctions mortelles, mais qui sont des sanctions malgré tout assez sérieuses, qui coûtent sans doute un petit point de PIB à une économie russe, dont on le disait tout à l'heure, qui n'est pas en grande forme.
Julien Vercueil, je rappelle que vous êtes professeur à l'INALCO et spécialiste de l'économie russe. Face aux sanctions européennes, comment est-ce que l'économie russe s'est réorganisée?
Alors, il y a eu une réorganisation de type politique, impulsée par le politique, avec l'établissement de contre-sanctions, un embargo sur un certain nombre d'importations en provenance des pays qui avaient sanctionné la Russie, en particulier des importations agricoles. Donc il y a eu un flot d'importations agricoles qui a été stoppé complètement. Et puis il y a eu ensuite derrière la réaction de l'économie russe à cela. Alors, plusieurs effets se sont fait sentir successivement. On a eu d'abord un effet de pic inflationniste qui était lié au fait qu'un certain nombre de produits n'étaient plus disponibles liés à ces contre-sanctions sur le territoire russe.
Oui, il y a eu des images invraisemblables où on faisait brûler des montagnes de fromage de Hollande et on montrait des fromagers russes absolument resplendissants de bonheur.
Ça, c'était aussi parce que, évidemment, à côté des règles formelles qui se créent, on a des comportements qui consistent à contourner ces règles. Et effectivement, ça fait partie d'ailleurs de l'adaptation de l'économie, hein, il y a eu des circuits de contrebande qui ont pu être organisés pour essayer de contourner cet embargo. Donc, le premier effet, c'était un effet sur les prix, sur la disponibilité et sur les prix de ces biens. On estime que pour 2015, le taux d'inflation aurait été 1 à 2% plus faible globalement si il n'y avait pas eu les contre-sanctions.
Et pour le consommateur russe, voilà, au jour le jour.
Ça touche le consommateur russe directement, hein, puisque le panier de biens du consommateur russe est composé en partie de biens alimentaires, donc ça a joué. Il y a eu un autre impact qui a été la possibilité pour des entreprises du secteur agroalimentaire d'essayer de substituer leur production aux importations agricoles. Alors ça a pu être aidé aussi par des facteurs climatiques parce que 2015 a aussi été une année climatiquement favorable pour l'agriculture. Donc on a vu augmenter la production agricole et l'industrie agroalimentaire à ce moment-là, bien que le reste de l'économie soit en stagnation, voire en récession. Et puis, il y a eu toute une série d'autres effets que les simples effets des sanctions. Et si vous voulez, ces effets sont beaucoup plus importants que les effets des sanctions. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Les effets des sanctions existent. Il est difficile, par exemple, pour les grandes entreprises et pour les grandes banques russes touchées par les sanctions de se refinancer en dollars sur les marchés internationaux. Donc elles doivent faire face à cela. Mais il y a eu aussi d'autres effets, comme par exemple la chute du rouble, qui a joué un rôle aussi très important dans le fait que les importations pour les consommateurs russes étant renchéris, il fallait se trouver d'autres sources d'approvisionnement, et en particulier des sources d'approvisionnement locales. Donc ça faisait baisser à la fois le pouvoir d'achat de la population russe, mais ça permettait à des entreprises russes profiter d'une nouvelle compétitivité qui leur était offerte par le fait que le rouble avait chuté. Donc vous voyez, il y a toute une série de phénomènes qui se sont combinés et qui ont fait que l'économie russe s'est ajustée. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, qui est assez intéressant, c'est que il y a une sorte de dichotomie entre l'analyse que font les entreprises de leur situation et l'analyse que font les ménages en Russie de leur situation. Les ménages considèrent que leur situation est dégradée et qu'elle continuera d'être défavorable pendant les 12 mois qui viennent. Par contre, les entreprises considèrent que la situation s'améliore petit à petit, ce qui montre que un certain nombre de secteurs ont commencé à bénéficier d'une faculté d'adaptation qu'elles ont depuis 2 ans à cette nouvelle donne, donnée non seulement par les sanctions, mais aussi par tous les effets de la chute des prix du pétrole, de la chute du rouble, qui se sont abattus sur l'économie russe.
Tatiana Kastoueva-Jean, qu'en est-il de ce fameux pivot vers l'Asie que Vladimir Poutine avait annoncé justement en riposte aux sanctions de l'Union européenne, vers la Chine avec un contrat mirifique en ce qui concerne le gaz, mais dont on n'a jamais su exactement ni le prix d'ailleurs, ni la capacité de réalisation, parce qu'il faut quand même des installations extrêmement importantes. Et puis un pivot aussi diplomatique pour bien affirmer que le Kremlin veut continuer à contrôler jusqu'à un certain point toute l'Asie centrale.
On a l'impression qu'on a découvert ce discours sur le pivot vers l'Est avec l'annexion de la Crimée. En vérité, ce discours était déjà présent dans le champ politique russe. Et c'est en partie lié avec le besoin de développer l'extrême-orient russe. Donc, il en était question d'un développement plus équilibré. Il y a eu un ministère de l'extrême-orient qui a été créé. Mais donc, ça, c'est l'annexion de la Crimée, après l'annexion de la Crimée, qu'on a vu ça comme la tentative de la Russie de se détacher de l'Occident pour aller plus vers la Chine. 2 ans plus tard, aujourd'hui, l'évaluation à Moscou de ce tournant est assez mitigée. Il faut dire qu'il y a un bon débat à Moscou sur la relation avec la Chine, sur ce tournant vers l'Est. Il y a une déception parce que les entreprises chinoises ne se sont pas précipitées à investir et à aider la Russie à développer le Moyen-Orient. Il y a aussi des craintes de développement exclusif à l'égard de la Chine. Donc la Russie aujourd'hui cherche à diversifier ce tournant vers l'Est en allant aussi, et il y a des choses très intéressantes dans les relations avec le Japon notamment, mais aussi avec l'Inde ou les pays de l'ASEAN. Donc c'est une question qui devient très intéressante et très complexe. Il y a des difficultés, il y a aussi quelques progrès enregistrés. C'est vrai que la Chine aujourd'hui est le premier partenaire économique commercial de la Russie, mais en même temps, dans l'autre sens, quand vous regardez la part de la Russie dans le commerce de la Chine, c'est pas tout à fait le cas.
Ce qui est fascinant, évidemment, dans la manière dont Vladimir Poutine, je le répète, au pouvoir depuis 16 ans, conçoit sa politique, c'est que c'est une politique du temps long. Alors que nous autres, dans nos démocraties occidentales, on fonctionne à très court terme et on a l'impression que nos malheureux dirigeants sont à chaque fois assaillis par une échéance électorale qui les oblige à promettre à peu près l'inverse de ce qu'ils seront capables de faire quand ils seront au pouvoir. Donc ce temps long s'accompagne en même temps, et on l'a vu au Kremlin même, dans l'équipe de Vladimir Poutine, d'un souci de renouveler toujours les rapports de force internes à sa propre garde rapprochée, en quelque sorte.
Oui, bien sûr, il y a ces plusieurs phénomènes qui se conjuguent. D'une part, en effet, il y a ce temps long. Les choses que nous, on découvre à l'occasion d'une crise, en fait, les prémices sont déjà là depuis longtemps. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de mener ce travail d'analyse très en amont, d'essayer de détecter dans le débat stratégique russe quels sont les points qui peuvent émerger à un moment ou à un autre.
Et alors, quels sont-ils aujourd'hui? Parce que il n'y a pas eu de débat à l'occasion des élections législatives qui auront lieu demain. Mais on a l'impression qu'il y a déjà un débat qui s'installe en prévision de l'élection présidentielle.
En fait,
2018.
Pour les élections législatives, c'est pour moi c'était un peu surprenant parce que la politique étrangère a pris une place bien moindre qu'on aurait pu y penser pour continuer à entretenir cette consolidation de l'électorat autour du président, de la personnalité du président et du drapeau national. Il y a quand même beaucoup plus d'autres questions qui sont venues au cœur de la préoccupation des Russes, les questions économiques, les questions sociales.
J'ai regardé, qui ont émergé quand même.
Voilà, j'ai épluché les sondages cette semaine et je vois que la préoccupation par la situation à l'est de l'Ukraine arrive en 15e position dans les préoccupations des Russes. Donc ça montre bien qu'est-ce qui est aujourd'hui est au cœur des
Russes. Et la préoccupation numéro 1 ?
C'est la situation économique et sociale, l'inflation, la pauvreté, donc voilà les questions économiques et sociales. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on a eu un débat, on a parlé du Parti communiste. Les partis intégrés dans l'opposition, les partis parlementaires comme le Parti communiste, ont besoin aujourd'hui de se distinguer de la ligne du parti qui est au pouvoir. Ils se sont trop alignés depuis l'annexion de la Crimée sur le discours du parti qui est en force, la Russie unie, ce qui leur a fait perdre une partie partie de l'électorat. Donc, ils ont besoin de se distinguer, que ce soit par une campagne plus moderne, adressée vers plus de jeunes et plus critique vis-à-vis du gouvernement, pour récupérer cet électorat en vue des élections parlementaires.
Mais ce débat sur les réformes économiques et sociales, jusqu'où peut-il aller quand on sait encore une fois que le Kremlin contrôle un système médiatique qui est muselé, totalement muselé.
C'est assez intéressant quand on dit totalement muselé, parce qu'il y a quand même des médias, quand vous les écoutez, ils passent leur journée à critiquer Poutine. Moi, j'écoute beaucoup l'Écho de Moscou, c'est assez impressionnant ce qu'on peut entendre, et d'une manière, d'une manière très ouverte. Moi, je dirais, juste pour formuler ça de cette manière, je dirais qu'il n'y a pas de monopole sur l'information à Russie, mais il y a le monopole sur l'interprétation de l'information. Et les gens...
Ça nous ramène à quelques décennies en arrière.
On peut le dire comme ça. Voilà. Donc c'est beaucoup plus confortable intellectuellement aussi pour sécuriser ses propres positions d'être dans cette mouvance mainstream au lieu d'aller à la rencontre. Donc moi j'appelle les auditeurs de la radio de Moscou, je les appelle, ils font partie d'un ghetto intellectuel en quelque sorte.
Jean Radvani, cette emprise de Vladimir Poutine sur la Russie, et sur la Russie éternelle, en quelque sorte, qu'il aspire à incarner. Jusqu'à quel point est-ce que l'on voit, dans le choix de son entourage, les prémices du système tel qu'il sera prolongé principe ?
Je crois qu'il faut d'abord dire que, en ce qui concerne la Russie, il faut se méfier de ce type d'affirmation. L'emprise totale de Vladimir Poutine, je n'y crois pas.
Il y avait un point d'interrogation.
Oui, j'entends bien. Je n'y crois pas parce que, vraiment, la société russe est une société complexe. Pour toutes sortes de raisons, ethniques, régionales, sociales. Et donc, on a vraiment... Alors, ça n'apparaît pas forcément au terrain politique, ça n'apparaît pas forcément dans les sondages. Parce que j'ai entendu un directeur d'un centre de sondage dire « Attendez, quand vous appelez en ce moment au téléphone un citoyen russe de Sibérie et vous lui demandez « Qu'est-ce que vous pensez de Vladimir Poutine ?» Est-ce que vous croyez qu'il va répondre objectivement « Je n'aime pas cet homme ?» C'est pas très crédible, vous comprenez ?
Non.
Donc voilà. En même temps, sur le débat économique par exemple, il est extrêmement ouvert en fait. D'abord parce qu'il y a un ou deux quotidiens, plutôt internet, Viedomosti et RBK, qui sont très critiques. Et ensuite, vous avez, par exemple, je lisais récemment une sorte de tableau comparatif de quatre principaux scénarios sur comment sortir de la crise et qu'est-ce qu'il faut faire. Avec Koudrine, vous savez, l'ancien ministre des Finances, nommé par la Russie.
La rumeur court aussi que Koudrine pourrait éventuellement devenir Premier ministre place de l'inamovible Medvedev.
Oui. Alors, ça, peut-être. On sait que c'est à la fois un proche de Poutine, Koudrine.
Mais un critique aussi.
Mais un critique. Et c'est intéressant. Et il le critique sur des choses très fondamentales. Puisque le Koudrine, dans son programme économique, il dit il faut absolument réformer le rapport entre l'économie et la justice. Il faut qu'une justice libre puisse intervenir. Il faut que les médias puissent intervenir.
Donc, l'ironie, c'est que c'était l'argument de Vladimir Poutine, premier ministre de Yeltsin, quand il est arrivé au pouvoir et qu'il a convoqué les oligarques.
Et c'est lui qui
a envoyé
fermé
le couvercle. Oui.
Donc voilà, c'est pour ça que on a un tableau qui est plus diversifié qu'il n'y paraît. Quant à savoir qui va remplacer M. Medvedev le jour où ça viendra, le Kremlin est une boîte noire. Pratiquement, on ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur, ou très peu de choses vraiment. Et on a toujours des surprises. Donc certainement, M. Poutine prépare l'avenir, il prépare son équipe d'après 2018, mais quant à savoir qui sera le Premier ministre, alors là, franchement, moi, je ne prends pas de pari.
Camille Grand, des générations de brillants experts comme vous, on les appelait à l'époque les kremlinologues, ont été incapables de prévoir ce qui s'est passé en Union soviétique, et notamment l'écroulement du système, comme un château de cartes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec quand même des outils d'écoute et d'espionnage, disons le vilain mot, extrêmement performant et sophistiqué, comment se fait-il qu'on ne sait pas plus sur ce que Jean Radvani vient d'appeler la boîte noire du Kremlin ?
D'abord, je pense qu'on a un petit peu justement cessé de travailler comme des kremlinologues. Moi qui ne suis pas un spécialiste de la Russie en tant que telle, je suis frappé de voir qu'une grande partie de cette expertise a été un peu laissée de côté et que le travail que faisaient aussi bien des journalistes comme Michel Tatu que tous les soviétologues, criminologues, a été un peu abandonné, sous-financé, etc.
Et donc et là, il y a une c'est vraie... vrai aux États-Unis aussi.
Et c'est en particulier aux États-Unis. Et là où je pense à une histoire que Michel Tatu me racontait, ce correspondant du Monde à Moscou, et qui avait des fiches sur l'ensemble du système du Parti communiste de l'Union soviétique, et qui avait repéré Gorbatchev en disant le type qui s'occupe de l'agriculture à Stavropol à 36 ans, c'est un type qui est sur une trajectoire qui va monter parce que c'est là qu'on a trouvé, c'est un vivier pour ceci, etc. Donc, cette capacité-là était un peu négligée, je pense, dans notre capacité d'analyse, que ce soit en termes de renseignement ou d'analyse plus académique. Premièrement. Deuxièmement, ce qui est vrai, c'est que, et Jean-Ravani disait très bien, le système est une boîte noire. Et Poutine n'est pas dans la collégialité. Il s'assure et il joue avec les gens autour de lui pour les faire monter, leur rappeler qui les a fait ministre ou premier ministre. Le cas, par exemple, de quelqu'un comme Sergueï Ivanov, qui a été ministre de la Défense, premier vice-premier ministre, puis qui a été rétrogradé, qui réapparaît une fois de temps en temps, etc.
Et qui était surtout
l'administration présidentielle.
Le patron, le secrétaire général du Kremlin.
Dont les postes ont constamment bougé.
Qui
vient d'être remplacé parce que c'est un rappel pour Poutine que même s'il était plus gradé que lui dans le KGB, il n'était pas au cœur du système.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, pardon, je vous interromps, c'est que son remplaçant, on l'a vu sortir de nulle part, Anton Vaino, un diplomate, je crois.
Exactement. Donc, il a une capacité à aller chercher des bureaucrates, sans doute de bonne qualité intellectuelle, mais qui lui doivent tout, et ce qui lui permet de verrouiller les choses. Et tout successeur potentiel se voit rappeler ça. Le ministre de la Défense actuel, Shoigu, qui a eu une petite phase de popularité après la Crimée et la Syrie, s'est terré dans un silence médiatique mutique dès que la presse a commencé à dire qu'il avait un bon profil de successeur. Donc on voit bien que il a assuré qu'il n'aspirait à rien d'autre que de servir Vladimir Poutine, etc. Donc on voit bien qu'il y a une emprise personnelle de Poutine lui-même sur le système qui est nécessaire pour sa survie politique, pour peut-être même sa survie tout court, c'est-à-dire et de ses intérêts, et que donc il n'envisage pas une transition vers quelqu'un d'autre. Il envisage de faire bouger le pouvoir autour de lui, et c'est, je pense, un des problèmes de la Russie d'aujourd'hui, c'est que Poutine se voit au pouvoir indéfiniment et a besoin d'être au pouvoir indéfiniment. Il ne va pas prendre sa retraite pour faire des conférences internationales.
Jean Radvani, mais là aussi, c'est le temps long.
Oui, c'est le temps long et en même temps c'est un des obstacles que rencontre la Russie d'aujourd'hui parce que ce système de cooptation et ce système d'élection sous pression tel qu'il va y avoir lieu demain, ça fait que, et ça a été souligné par Koudrine justement, ça fait qu'on a à des postes dirigeants des gens qui n'ont pas une vraie légitimité autre que celle d'avoir été choisis par le président et c'est pas forcément les meilleurs. S'il faut réagir à une situation de crise dans une région, dans une ville, ils sont pas forcément.
Oui, mais encore une fois, il y a aucun point de comparaison parce que dans la mémoire russe contemporaine, ça n'a jamais été le cas. Ce système de sélection par
rapport
qualité...
au temps long, je crois que c'est vraiment très très important. Et je lisais récemment un article de Fyodor Loukhanov sur les rapports entre
que nous avons souvent invité dans cette émission.
Chine, Asie centrale, Russie. Parce que M. Karimov vient de mourir, le président ouzbek, le président Nazarbayev du Kazakhstan est âgé, il va y avoir une succession difficile.
Et qui étaient tous des dignitaires éprouvés du KGB.
Et proches de la Russie. Pour M. Nazarbayev. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est l'idée que peut-être, justement en Asie centrale, ça va obliger la Russie à avoir une politique plus partagée d'influence. Pour tenir compte du rôle de la Chine et en même temps ne pas perdre complètement cette région cruciale pour eux.
Merci à tous. Merci à vous, Jean Radvani, professeur de l'université à l'INALCO. Vous avez publié avec Marlène Laruelle « La Russie entre peur et défi » chez Armand Collin cette année. Merci à Tatiana Kastoueva-Jean. Vous avez publié, Russie, le retour des impératifs de politique intérieure, un papier très intéressant à la documentation française. Julien Vercueil, merci. Vous étiez avec nous par téléphone. Vous êtes professeur à l'INALCO. Et merci, bien sûr, à Camille Grand, que nous avons reçu ce matin pour la dernière fois, puisque, bravo Camille, vous allez devenir prochainement secrétaire général adjoint de l'OTAN. Merci à Eric Scholl, comme à chaque fois, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation, à Edouard Rubinstein à la technique, Meryl Moneghetti à la préparation et maintenant Dominique Rousset pour l'économie en question, comme chaque samedi. Très bon week-end.